pour l'instant, on s'en va en France pour parler avec Caroline Pigeon, docteure en neuropsychologie et chargée de projet qui s'intéresse à la participation sociale des personnes âgées. Bonjour, Madame Pigeon.
Bonjour.
D'abord, je suis curieuse. Pardon?
Merci de me donner une belle occasion de parler de notre projet.
Ah, ça nous fait super plaisir, mais moi, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous amène en France, d'abord et avant tout.
Eh bien, comme vous pouvez peut-être l'entendre...
La famille, oui.
Et donc, je rentre pour passer les fêtes de fin d'année avec ma famille. Puis j'ai mon post-doctorat aussi qui touche à sa fin.
Bon.
Voilà.
Et vous allez fêter, bien célébrer tout ce que vous avez fait pendant cette année. Notamment, on est ensemble pour parler du programme d'accompagnement personnalisé d'intégration communautaire. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, donc, l'accompagnement citoyen personnalisé d'intégration communautaire, ou APIC, c'est une intervention qui vise à améliorer la participation sociale de personnes isolées. En fait, simplement, il consiste à former des citoyens bénévoles à accompagner des aînés à s'intégrer davantage dans leur communauté.
Et là, vous avez été chargé d'adapter le programme pour les besoins des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.
C'est ça.
Déficience visuelle, dis-je bien.
C'est ça. On a adapté le programme aux aînés qui ont une déficience visuelle et on a vérifié ses effets aussi sur différentes variables, comme la participation sociale ou la qualité de vie.
Mmh. Et comment vous avez choisi les participants à votre étude, tant du côté des personnes aveugles, non-voyantes et que des bénévoles?
Alors, du côté des personnes non-voyantes, ils étaient principalement recrutés par les intervenants du Centre de réadaptation de l'Estrie, du CIUS de l'Estrie-CHUS, avec qui on a réalisé le projet, mais aussi via des centres communautaires, des centres d'action bénévole ou des annonces dans les médias. Et il y avait des critères d'inclusion pour participer qui étaient principalement les suivants. Il fallait être âgé de 50 ans et plus, avoir une atteinte visuelle modérée à grave, et être confronté à au moins un obstacle à sa participation sociale. Par exemple, avoir eu récemment un changement de vie important et déstabilisant ou trouver difficile de rester connecté à sa communauté.
Mm-hmm. Et de quelle façon les bénévoles étaient préparés à leur rôle?
Et les bénévoles, donc tout d'abord, il n'y avait pas vraiment de critères pour être bénévole, mis à part être disponible et montrer de la motivation à s'engager auprès d'une personne pour une durée de 6 à 9 ans.
De 6 à 9 ans?
De 6 à 9 mois, pardon.
Oui.
Ce qui fait qu'on a eu principalement deux types de bénévoles, des retraités et des étudiants.
Bon.
Et pour leur préparation, en fait, on les a formés.
Mm-hmm.
On les a sensibilisés aux défis liés au vieillissement et à la perte d'autonomie. On leur a également expliqué comment on pouvait aider quelqu'un à cibler et à réaliser des activités sociales et de loisirs en mobilisant graduellement ses ressources et celles de l'environnement. On a beaucoup insisté sur les notions d'autonomie, d'indépendance, de choix et de pouvoir d'agir, car ce qu'on souhaitait vraiment, c'est que ce qui avait été entrepris et mis en place pendant l'accompagnement, ça perdure une fois qu'il était terminé, donc après 6 et 9 mois.
Mmh. Avez-vous constaté des retombées positives pour les personnes accompagnées?
Oui, bien sûr. Donc, en plus de diverses activités qui ont été réalisées, par exemple, trouver quelqu'un dans le voisinage avec qui marcher ou adhérer à une association et s'y rendre en transport adapté, les résultats préliminaires indiquent qu'immédiatement après l'accompagnement, les aînés avaient amélioré leur pratique d'activité sociale et leur pratique de loisirs, amélioré leur qualité de vie, leur pouvoir d'agir et leur mobilité. Certains aînés me rapportaient par ailleurs que l'accompagnement, ça avait vraiment une influence positive sur leur confiance en eux, leur bien-être ou encore leur motivation à prendre soin d'eux.
Mm-hmm. Mais on peut avoir l'intuition que c'est sûr que quand on se sort de cet isolement social qui est un fléau, les retombées ne peuvent pas être négatives.
Et c'est sûr, ce qui est important de savoir, c'est que vraiment, la participation sociale, ça a vraiment un impact sur la santé des aînés. C'est quelque chose qui est tout aussi important que de ne pas fumer, faire de l'exercice physique ou avoir une alimentation, une bonne alimentation.
Mm-hmm. Il y a un exemple dans La Tribune, le journal La Tribune de Sherbrooke, puisque le centre de vieillissement est à l'Université de Sherbrooke, c'est ça?
Oui.
Et on en parle dans La Tribune. Il y a Michel Parent, 75 ans, qui vit avec une déficience visuelle, qui a été jumelé à Jacques Roy. Ils sont devenus des amis. Et même après le projet, ils vont continuer de se voir. C'est beau, ça?
Oui, on a eu des belles amitiés. Puis un des plus de cet accompagnement, c'est sa réciprocité, parce qu'il apporte aussi aux bénévoles.
Oui.
Les bénévoles me rapportaient que ça leur avait permis d'acquérir de l'expérience, de se sentir compétents, de mieux se connaître, d'ouvrir leurs horizons, mais aussi d'apprendre de nouvelles choses. On en a certains qui ont appris à tricoter, qui en connaissent plus sur l'histoire du Québec, ou même à faire des recettes de cuisine traditionnelle québécoise.
Alors, c'est très large comme activité que les deux personnes font ensemble, ont fait ensemble.
Effectivement, parce que on met l'accent sur les intérêts et les besoins de la personne accompagnée. Donc, ça peut aller de
aller au restaurant.
Par exemple, ou aller marcher dans le voisinage, ou bien on a un duo qui ont fabriqué une biographie illustrée de la dame accompagnée.
Ah oui. Est-ce qu'il fallait absolument qu'ils sortent de leur maison, de l'endroit où ils vivent habituellement?
Alors, c'est ce qu'on encourageait parce que c'est le meilleur moyen de s'intégrer dans la communauté, de sortir de chez soi. Mais ce n'était pas obligatoire. La participation sociale, elle peut venir à nous lorsque l'on ne peut pas sortir de chez soi.
Mmh. Alors, le projet est terminé ou il est toujours en cours?
Alors, le projet de recherche touche à sa fin. Là, on est en train d'analyser nos dernières données. Et ça, c'est une belle réussite pour notre équipe. Ce qui était à l'origine un projet de recherche, c'est devenu une nouvelle intervention au centre de réadaptation.
Ah oui. Et est-ce qu'il y a, dans le projet, il y a eu autant d'hommes que de femmes qui y ont participé?
Il y a eu un peu plus de femmes, mais quand même quelques hommes.
D'accord. Est-ce que le centre de réadaptation de l'Estrie veut poursuivre le programme de jumelage?
Oui, bien sûr. Il y a 4 jumelages qui ont démarré cet automne, donc hors de la recherche, mais il pourrait y en avoir d'autres si des citoyens supplémentaires souhaiteraient s'engager comme bénévoles.
Et vous, qu'est-ce qui vous a amené vers ce phénomène, si je peux appeler ça comme ça? C'est tout à fait naturel, mais le vieillissement, en quoi ça vous intéresse, en quoi ça vous captive?
Moi, ce qui me passionne, c'est que je trouve que, en fait, initialement, on a l'impression qu'on peut apporter quelque chose aux personnes âgées ou aux personnes qui ont une incapacité. Mais en fait, à mesure de les côtoyer, on se rend compte qu'on a tellement de choses à nous apprendre.
Oui, c'est vrai. Ce sont des encyclopédies, on entend ça souvent, mais c'est vrai. Ce sont des personnes qui ont plein de choses à nous apprendre.
Et en fait, il faut vraiment qu'eux-mêmes aient... l'ensemble de la société se rend compte de la valeur qu'ils ont en tant qu'individu, c'est sûr.
Mmh. Est-ce qu'on va pouvoir lire ce que vous avez conclu avec cette étude?
Donc, il y a eu quelques entrevues qui sont parues dans les journaux, notamment La Tribune. Et on est bien sûr en train de travailler à écrire des articles scientifiques pour diffuser dans la communauté scientifique nos résultats. Mm-hmm. Je peux peut-être vous inviter les auditeurs à aller sur le portail de recherche de la professeure Levasseur, oui, dans lequel ils pourront trouver toutes les informations et notamment les coordonnées pour bénéficier de la PIC, qui est aussi par ailleurs offert dans plusieurs secteurs de Montréal, à Lévis, à Drummondville ainsi qu'à Coaticook.
D'accord.
Donc c'est M. Levasseur.
M. Levasseur, ça c'est le professeur, c'est,
oui,
c'est elle la prof, Levasseur, la chef d'équipe, si je peux dire. Pardon?
Oui. Comment? Mélanie Levasseur, oui. Donc son portail de recherche, l'adresse internet, c'est mlevasseur.recherche.usherbrooke.ca.
Est-ce que vous voulez la répéter, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. mlevasseur.recherche.sherbrooke.ca.
Et vous êtes combien sur ce projet?
Moi, j'ai travaillé avec Mélanie Levasseur et Judith Renaud, qui est ma deuxième superviseure, sur le projet d'adaptation aux aînés qui ont une atteinte visuelle. Mais l'APIC adaptée aux aînés en général, il y a plusieurs autres personnes qui travaillent dessus.
D'accord. Bien, Caroline Pigeon, docteure en neuropsychologie et chargée de projet, un grand merci de d'avoir accepté cette entrevue puisque vous êtes en France et j'imagine déjà un peu en congé avec votre famille et vos amis.
Merci à vous, merci bien. Et je voulais aussi remercier les personnes qui ont collaboré au projet. Les aînés, les bénévoles, bien sûr, mais aussi les professionnels du centre de réadaptation qui font vraiment un travail exceptionnel, ainsi que mes deux superviseurs pour leur soutien.
Alors, c'est fait. Merci. Joyeux Noël et bonne année 2019. Continuez vos bonnes
Merci
études.
Beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.